Merci à l'équipe qui nous a conduits dans la première partie de ce culte. Et j'aimerais commencer en vous posant une question, ou plusieurs questions. Avez-vous tendance à être perfectionniste? Ou connaissez-vous dans votre entourage des personnes qui sont perfectionnistes? Selon vous, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Un peu des deux? Le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait ou devait être atteinte. Et sous la forme la plus poussée, le perfectionnisme, la personne perfectionniste, considère toute imperfection comme quelque chose d'absolument insoutenable, inacceptable. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, avec le regard qu'apporte l'Ecclésiaste. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous parcourrons ce matin toute la fin du chapitre 7 à partir du verset 15. Et le texte s'affiche ci-après, mais vous pouvez aussi bien sûr suivre dans votre Bible. Ecclésiaste 7, verset 15. « J'ai tout vu au cours de ma vaine existence. » Ici, un juste qui se perd par sa conduite juste, et là, un méchant qui prolonge sa vie par sa conduite mauvaise. Ne sois pas juste à l'excès, et ne sois pas sage au-delà de la mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Il est bon que tu prennes en compte ces deux principes, sans négliger l'un ou l'autre, car celui qui craint Dieu trouvera une issue pour les mettre en œuvre tous deux. La sagesse rend le sage plus fort que 10 dirigeants qui sont dans une ville. Cependant, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Aussi, ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur se plaindre de toi. Car tu sais dans ton cœur que, bien des fois, il t'est arrivé de te plaindre des autres. Tout cela, je l'ai testé par la sagesse. Je me suis dit, je serai sage, mais elle est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut le trouver? J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison, et à connaître que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je trouve plus amer que la mort la femme qui est un piège et dont le cœur est un filet et dont les bras sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. À quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une pour en faire l'analyse? J'ai cherché encore, et je n'ai pas trouvé. J'ai bien trouvé un homme sur 1000, mais je n'ai pas trouvé une seule femme parmi elles toutes. On reviendra sur ce verset, hein, je ne me déroberai pas. Verset 29. Voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'être humain droit, mais les humains ont cherché beaucoup de combines. Face au perfectionnisme, car c'est bien de cela dont il est question dans ce passage que nous venons de lire, la sagesse intervient et j'ai repéré cinq points, qui vont être la suite de la prédication ce matin, 5 points où la sagesse est pertinente, importante et quelque chose à rechercher. Tout d'abord, face au perfectionnisme, la sagesse nous fait prendre conscience que l'excès est nuisible. Je reviens sur les versets 15 à 17 qui sont ici. J'ai tout vu au cours de ma vaine existence, verset 15, hein. Ici, un juste qui se perd dans sa conduite juste, et là un méchant qui prolonge sa vie par sa conduite mauvaise. Alors quand on lit ce verset, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas très logique, c'est même un peu déroutant. Ça revient à dire que le juste se perd à cause de sa conduite juste et le méchant, lui, s'en tire à cause de sa mauvaise conduite. On aurait plutôt tendance à imaginer l'inverse. Un juste va prolonger sa vie par sa conduite juste et inversement, un méchant se perdre par sa mauvaise conduite, par sa méchanceté. Il y a en fait quelque chose d'injuste dans ce que l'Ecclésiaste dit ici, dans ce constat qu'il dresse. Et en même temps, il y a d'autres passages dans la Bible, on peut penser au psaume 73 et beaucoup d'autres, qui font également ce constat que certains s'en tirent, et ils s'en tirent à cause ou grâce à leur tricherie, des coups tordus, etc. Et cela s'explique par le fait que nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Je pense, j'enfonce une porte ouverte ici. Un monde qui est marqué par le péché, par ses conséquences. Beaucoup de choses vont de travers. Et par conséquent, l'Ecclésiaste dit au verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage au-delà de la mesure. Pourquoi te détruirais-tu ? » Il est en train de dire que l'on peut se nuire à soi-même en recherchant à vouloir être trop juste, trop perfectionniste. Est-ce que l'Ecclésiaste adopterait ici une attitude immorale, surtout quand on voit la question, enfin, ce qu'il dit au verset suivant, hein, « Ne sois pas méchant à l'excès ». On y reviendra sur ce verset 17. Est-ce qu'il est immoral ? Non, bien sûr que non. Ce que l'Ecclésiaste reproche ici, ce n'est pas la conduite juste, c'est l'excès. C'est l'excès qui est vraiment en exergue dans cette phrase. Et c'est souvent l'excès qui fait qu'un comportement peut devenir mauvais, néfaste et destructeur. Deux exemples, mais il y en aurait tellement. Regarder la télévision, surfer sur les réseaux sociaux, en soi, ce n'est pas un problème. Mais l'excès de telles choses peut nous conduire à un repli sur nous-mêmes, à nous désocialiser, etc. Deuxième exemple, manger des fruits, manger des légumes, c'est recommandé, c'est bon pour la santé. Ne manger plus que des fruits et des légumes, ça peut conduire à des carences. Tout est dans une question de mesure. Je le mentionnais dans la prédication de la semaine dernière, où on voyait le texte précédent, au début du chapitre 7, où j'avais mentionné que l'Ecclésiaste s'adresse ici à des jeunes gens, et essentiellement des hommes, qui par la suite vont endosser des responsabilités dans la société, dans le domaine politique, etc. Et donc, la justice à l'excès, notamment dans ce contexte-là, quand on se rappelle de ce contexte-là, ça peut mener à des impasses et conduire à bien des complications. Face à des personnes qui pourraient être tentées d'agir uniquement si elles sont certaines d'atteindre le résultat final, ou encore seulement si les conditions sont bonnes, voire même idéales, ou encore parce qu'elles n'auraient pas envie de collaborer avec d'autres en ayant peur que les autres ne fassent pas aussi bien qu'elles. Donc, je ne collabore pas avec les autres. Ou encore des personnes qui seraient tentées d'appliquer une attitude rigoriste et une justice bornée, eh bien l'Ecclésiaste leur dit, et il est en train de dire, de nous dire ici, parfois, il vaut mieux se satisfaire de quelque chose qui n'est pas idéal, mais qui permettra quand même d'avancer, de mener une action, de faire quelque chose de constructif, de faire quelque chose qui ne sera pas non plus, qui ne sera pas une corruption, un péché, mais qui permettra de faire avancer quand même. Il faut accepter que les choses soient faites moins bien qu'on le souhaiterait. Autrement, on rechercherait la justice à l'excès. Comme dit un certain proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. En même temps, il s'agit de ne pas se compromettre, de ne pas se corrompre. Et il ne s'agit pas d'agir d'une manière qui va à l'encontre de nos convictions, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Et l'Ecclésiaste dit au verset 17, « Ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas un insensé. Alors, il ne dit pas qu'on peut être méchant pourvu qu'on ne le soit pas trop. Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. La preuve, c'est qu'il dit juste après, ne sois pas un insensé. C'est pas comme ça qu'il faudrait comprendre. Pour le dire autrement, le fait de ne pas atteindre, de ne pas pouvoir atteindre l'idéal, ne doit pas non plus être une excuse pour se laisser aller. Ça ne doit pas non plus être une excuse pour ne plus chercher à accomplir le bien, à faire du bien ou à faire du mieux possible, voire même une excuse à tolérer le mal. Bien sûr que non. Mais sans aller jusqu'à se compromettre, il est parfois préférable d'opter pour le moindre mal, faute de mieux. Et c'est un signe de sagesse d'agir même si nous ne pouvons pas faire le bien de manière idéale, parfaite. Par contre, c'est se comporter en insensé, et être insensé, c'est manquer de sagesse, quand on agit en recherchant la justice à l'excès, et ça ne conduit souvent pas à de bonnes perspectives, et comme dit la fin du verset 17, « Pourquoi mourrais-tu avant ton heure ?» Non pas qu'une mort précoce arriverait, mais une mauvaise conduite engendre souvent des conséquences douloureuses pour celui qui s'y livre. Donc face au perfectionnisme, la sagesse nous fait prendre conscience que l'excès est nuisible. Et deuxième point, il y en aura donc cinq, je le disais tout à l'heure, face au perfectionnisme, la sagesse commence et se poursuit par la crainte de Dieu. Verset 18. Il est bon que tu prennes en compte ces deux principes, sans négliger l'un ou l'autre, car celui qui craint Dieu trouvera une issue pour les mettre en œuvre tous deux. Ces deux principes donc. La crainte de Dieu, c'est ce profond respect que l'on a à l'égard de Dieu, cette déférence, et qui conduit au désir d'obéir à sa parole, d'obéir à ses commandements. Je cite un commentateur qui dit ceci, « C'est la crainte de Dieu qui doit être la motivation fondamentale de toute action et qui permettra de discerner comment agir en évitant l'excès dans un sens comme dans l'autre. L'excès de justice comme les compromis illégitimes, en évitant aussi d'emprunter le chemin de l'insensé. Tel est le cadre dans lequel nous devons vivre les exhortations des deux versets précédents. » La crainte de Dieu, donc, c'est ce chemin de crête qui permet de tomber dans ces deux côtés. D'un côté, le rigorisme et de l'autre, le laxisme. On se souvient, avec le livre des Proverbes, et on sait que l'Ecclésiaste affectionne et fait souvent référence subtilement au livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 7, on lit ceci. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Au chapitre suivant, nous lisons ceci dans les Proverbes toujours. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Par conséquent, l'Ecclésiaste ici, il veut montrer que la sagesse vaut mieux que la folie et ce n'est pas nouveau, mais il le dit au verset 19, la sagesse rend le sage plus fort que 10 dirigeants qui sont dans une ville. Les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ceux qui tiennent les manettes. Des traductions ont les chefs. Avoir le pouvoir, c'est une chose. Avoir la sagesse pour bien diriger, c'en est une autre. Et par conséquent, il ne faut pas délaisser la sagesse, parce que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 7, et elle se poursuit toute la vie par cette crainte de Dieu, ce respect, cette déférence à l'égard de Dieu, cette volonté de le suivre, de lui obéir. Et c'est la sagesse qui nous aide à discerner comment ne pas être juste à l'excès et donc de tomber, d'éviter de tomber dans ces excès, d'un côté comme de l'autre. Face au perfectionnisme, la sagesse nous fait prendre conscience que l'excès est nuisible. La sagesse commence, on vient de le voir, et se poursuit par la crainte de Dieu. Troisièmement, face au perfectionnisme, la sagesse donne l'objectivité pour évaluer les autres et évaluer soi-même. Versets 20 à 22. Cependant, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Aussi, ne prête pas attention à tout ce qu'on dit. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur se plaindre de toi, car tu sais dans ton cœur que bien des fois, il t'est arrivé de te plaindre des autres. Même une personne sage n'est pas à l'abri d'un faux pas, d'une faute, parce que tout être humain est pécheur. Et ça, c'est une réalité qui est affirmée partout dans la Bible. Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. L'Ecclésiaste s'adresse à des jeunes gens, on l'a dit tout à l'heure, qui vont accéder au pouvoir et qui seront par conséquent exposés à la critique. Il y a des gens qui vont se plaindre parce que c'est impossible de plaire, de satisfaire tout le monde. À partir du moment où l'on fait quelque chose, on s'expose à la critique. C'est inévitable et c'est d'autant plus vrai quand on tient un poste avec des responsabilités. Et l'Ecclésiaste nous invite à apprendre à passer par-dessus pour ne pas se laisser paralyser dans notre action. Parce que la critique, surtout quand elle est destructive, et en particulier quand elle l'est, elle peut paralyser dans l'action. Si toute critique n'est pas bonne à prendre, il convient cependant de prendre en compte les critiques qui, elles, sont édifiantes, sages, justifiées. Et il y en a. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Il y a des conseils, il y a des critiques qui sont bons à prendre. Et c'est un gage de sagesse que de savoir accepter les critiques constructives. Ça signifie qu'on reconnaît aussi qu'on a des limites, qu'il y a des pistes d'amélioration qui sont possibles et qu'on est ouvert à ça, à l'amélioration. Mais cela vaut aussi dans les deux sens. Comme le dit le verset 22, il nous faut reconnaître qu'il nous arrive également de nous plaindre des autres et de les critiquer, parfois à tort. Et c'est souvent notre excès de justice, notre grille perfectionniste qui nous a fait pointer du doigt l'action de tel ou tel autre et critiquer, sans d'ailleurs avoir toujours les clés en main pour bien critiquer. La sagesse donc nous donne l'objectivité pour évaluer les autres et évaluer soi-même. Face au perfectionnisme, la sagesse, quatrièmement, est à rechercher, bien que, l'Ecclésiaste le dit, le redit, elle est limitée. Versets 23 et 24, « Tout cela, je l'ai testé par la sagesse, et je me suis dit, je serai sage, mais elle est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut le trouver ?» En disant « je serai sage », l'Ecclésiaste aspire à la sagesse. C'est son vœu le plus sincère, le plus intime, le plus profond. Il veut être sage, mais il se rend bien compte qu'il ne peut pas l'être totalement. Il est obligé de reconnaître que la sagesse a des limites. La sagesse ne permet pas de tout résoudre. Nous n'avons pas toujours tous les éléments en main pour bien savoir comment agir, quelles répercussions notre action va avoir. Quelle répercussion elle aura sur les autres? Comment les autres vont réagir à notre action? On ne peut pas mesurer tout cela. On ne mesure pas ce qui est éloigné de nous, comme dit le verset 24. On ne mesure pas ce qui est profond, ce qui est très profond. C'est hors de notre portée. On n'y a pas accès. On ne peut pas l'atteindre. Dans les versets précédents, il était question des critiques. Si la critique est facile, bien souvent, nous n'avons pas toutes les clés pour critiquer de manière objective, même avec la sagesse. Pour autant, verset 25, la sagesse est à rechercher. Et l'Ecclésiaste dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la raison, et à connaître que la méchanceté est insensée, et que la folie est déraisonnable. Car même si bien des choses nous échappent, la sagesse nous aide à mieux vivre. Elle nous aide à faire de meilleurs choix. Comme on le disait la semaine dernière, ce n'est pas les meilleurs choix, mais c'est de meilleurs, faute de mieux. On peut noter d'ailleurs l'intensité ici qui se dégage de ces trois verbes, connaître, explorer, rechercher. Il y a une invitation ici à ne pas baisser les bras, mais au contraire à persévérer pour vivre de manière de plus en plus sage. Rechercher la sagesse, et l'Ecclésiaste ajoute quelque chose. Rechercher la sagesse et la raison. Un terme, la raison, qui désigne la réflexion, le raisonnement. La sagesse n'empêche pas la réflexion, n'empêche pas notre raisonnement, bien au contraire. Si la sagesse est quelque chose que l'on acquiert par notre lecture de la Bible, par une attitude de prière, d'écoute de Dieu, par cette aspiration à vivre toujours dans la crainte de Dieu, on l'a vu au verset 18, ça ne doit pas nous empêcher de mener notre action en prenant également en compte notre réflexion, notre raisonnement. Le croyant en Dieu, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui apprend à discerner, qui va associer sa réflexion à la recherche de la sagesse. La sagesse alimente la réflexion alimente la sagesse, l'une ne va pas sans l'autre. Et il me semble que c'est quelque chose d'important à entendre, à prendre conscience, et il ne faut pas avoir peur de prendre ici le contre-pied de ceux et celles qui pensent que parce qu'on va se mettre dans une attitude de prière, et sans avoir à réfléchir, le Seigneur va nous montrer comment agir, ça va nous être reçu d'en haut. Si le Seigneur peut agir comme cela, ça ne se fait, je pense, dans l'ordinaire, pas sans la réflexion. La réflexion a aussi sa place, dans notre discernement. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste dit « J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison. » Et l'Ecclésiaste poursuit en rejetant la méchanceté et la folie, parce que la méchanceté est insensée et la folie déraisonnable. Recherchons donc cette sagesse et cette raison, quand bien même la sagesse ne sera jamais totalement acquise dans la vie présente, quand bien même notre raison aussi sera toujours teintée par le péché, par ses limites là aussi. Recherchons donc la sagesse autant que nous le pouvons, pour décider, pour agir en fonction du maximum de sagesse dont nous pouvons disposer maintenant. Et en même temps, soyons conscients des limites de notre sagesse et ne tombons pas dans une sagesse perfectionniste. Cinquième et dernier point, la sagesse préserve de bien des pièges. Le verset 26 dit ceci, « Je trouve plus amère que la mort la femme qui est un piège et dont le cœur est un filet et dont les bras sont des chaînes. » L'Ecclésiaste met en garde ici contre la femme séductrice. Dans le livre des Proverbes, on l'a déjà cité et on l'a cité plein de fois dans cette série sur l'Ecclésiaste, l'auteur des Proverbes met en contraste deux femmes. La femme sagesse, d'un côté, et la femme folie, qui a les traits de la femme séductrice, de cette femme qui est au coin des rues et qui appelle le passant, « Viens, viens, viens dans ma maison, nous allons faire ceci et cela. » Cette femme séductrice. Et je vous invite à lire dans Proverbes 5 et Proverbes 6, vous allez voir de quoi il est question. Une telle femme séductrice est susceptible de faire perdre la tête à la personne sage. Et donc, il faut se méfier de cette femme fatale. Rappelons-nous, je l'ai déjà dit, je le redis encore, dans le contexte de l'époque, l'Ecclésiaste s'adresse à des hommes qui allaient exercer des responsabilités dans la société. Et c'est pour ça que son discours ici s'adresse essentiellement à des hommes. En tout cas, le discours est orienté de cette manière-là. Mais élargi à notre contexte à nous par les principes qui se dégagent de ce texte, nul doute que le discours s'adresse à tous, hommes et femmes. Et là où il est question de la femme séductrice, on peut penser aussi à l'homme séducteur. Donc la sagesse préserve des pièges de la femme séductrice et de l'homme séducteur dans ces versets. Notons que la description qui est faite de cette femme séductrice évoque quelque chose aussi de sa ténacité à séduire et à emprisonner celui qu'elle attrape. Son cœur est un filet, ses bras sont des chaînes, verset 26, et tout cela forme un piège pour celui qui s'y livre, et c'est plus amer même que la mort. C'est quand même incroyable. Le livre de l'Ecclésiaste fait souvent penser à la personne de Salomon, par les traits que l'Ecclésiaste reprend pour décrire ce qu'il dit. Et on ne peut pas ne pas penser à Salomon qui, en particulier vers la fin de sa vie, a été conduit au péché, à l'idolâtrie, de par notamment le nombre de femmes et de concubines qu'il a eues. Et en même temps, il est important de dire que le piège de la femme séductrice n'est pas une fatalité, dans le sens où la personne qui veille sur elle-même, sur son comportement, avec sagesse, ne tomberont pas dans le piège. Comme il est dit là, celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur, lui, sera capturé par elle. L'Ecclésiaste ici désigne celui qui a la crainte de Dieu, verset 18, on l'a vu, celui qui a ce profond respect à l'égard de Dieu, celui qui a le désir de plaire à Dieu dans son comportement. Par contre, le pécheur, c'est-à-dire celui qui n'en a que faire de se soucier si son action plaît à Dieu ou pas, lui, il se laisse capturer par la femme séductrice. Il se laisse prendre au piège. Il y a donc une invitation à la sagesse, car c'est la sagesse qui permettra de discerner les pièges de cette femme séductrice, de cet homme séducteur. Et dans la société d'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de se laisser prendre au piège. Avec l'univers de l'Internet, les pièges ne sont jamais à plus de quelques clics. Beaucoup de spots publicitaires contiennent des images ou des photos de femmes et d'hommes qui, par leur séduction, par leur tenue souvent légère, attirent ceux et celles qui les regardent. On veut nous séduire en vue de nous faire acheter tel ou tel produit, article, etc. Laura et moi, nous sommes allés à deux reprises au Salon de l'automobile qui se tient tous les deux ans à Paris, et c'était frappant, à côté de chaque voiture, il y a une ou deux femmes qui sont là, légèrement vêtues. Il fait très chaud au salon, hein, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Et qui se tiennent là pour renseigner les potentiels acheteurs et répondre à leurs questions. Et ce n'est pas finalement très étonnant quand on sait que ce sont principalement des hommes qui viennent dans ce salon et qui vont ensuite acheter la voiture de leur rêve. Tout est fait pour séduire, pour attirer. Alors quand cela conduit à acheter une voiture, c'est une chose, mais quand cela conduit à un adultère, à la fornication, c'en est une autre. Versets 27 et 28. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Voici à quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une pour en faire l'analyse. J'ai cherché encore et encore, je n'ai pas trouvé. J'ai bien trouvé un homme sur 1000, mais je n'ai pas trouvé une seule femme parmi elles toutes. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut dire ici? D'autant qu'il ne précise pas de quel genre d'homme et de femme il est parti en quête. On ne sait pas trop. Je passe sur une interprétation qui est retenue par un commentateur, mais c'est peut-être un seul, et heureusement il n'y en a pas plus, qui penserait que l'Ecclésiaste est misogyne. faut passer vite là-dessus, c'est évidemment pas de cela dont il est question. Des commentateurs beaucoup plus sérieux ont rapproché cela de la figure justement de Salomon dont on parlait tout à l'heure, qui est souvent en arrière-plan dans ce livre de l'Ecclésiaste. Et on sait que Salomon a eu de nombreuses femmes et concubines. Et donc, si l'Ecclésiaste qui se présente souvent sous les traits de Salomon n'a pas trouvé une femme, c'est tout simplement parce qu'il en a eu trop. Et avec plusieurs femmes, il n'y en a finalement aucune qui soit vraiment sa femme. Parce que, comme l'Ecclésiaste le dira un peu plus loin dans le livre, au chapitre 9, verset 9, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Le vrai bonheur ne peut venir qu'au sein d'une relation conjugale avec un seul et unique conjoint. Une femme, si on est un homme, si on est une femme. » Une autre manière de comprendre, et qui, me semble-t-il, tient davantage compte du contexte de notre texte, à savoir le perfectionnisme. Dans ce contexte du perfectionnisme, on peut comprendre de la manière suivante, au verset 28, quand l'Ecclésiaste dit « J'ai bien trouvé un homme sur mille », l'Ecclésiaste penserait à des relations d'amitié. Sur mille hommes, il en a trouvé un avec qui il peut entretenir une amitié sincère, authentique. Par contre, quand il dit « Je n'ai pas trouvé une seule femme parmi elles toutes », l'Ecclésiaste aurait en tête la recherche d'une femme pour qu'elle soit sa femme, son conjoint, et qui vienne cocher tous ses critères. On a tendance à être souvent plus exigeant pour le choix d'un conjoint que pour le choix d'un ami, quand bien même le choix d'un ami est souvent répond à beaucoup de critères. Je ne parle pas des amis sur Facebook, je parle des véritables amis. Mais l'être humain va avoir tendance justement à rechercher le conjoint idéal, celui qui va cocher toutes les cases. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes, qui veulent chercher le conjoint idéal. Alors bien sûr, appliqué au contexte de l'Ecclésiaste à l'époque où il s'adresse qu'à des hommes, il ne parle pas des femmes qui rechercheraient un mari, mais il s'adresse à des hommes, donc l'accent est mis sur « je n'ai pas trouvé une seule femme ». Mais on peut lire les choses avec le regard d'une femme aussi. Mais penser comme cela, rechercher le conjoint idéal, c'est oublier que dans le monde dans lequel on vit, le conjoint idéal n'existe pas. Et l'Ecclésiaste a rappelé que tout être humain, homme ou femme, est pécheur. La perfection n'est pas de ce monde. Agir avec sagesse conduit ici à abandonner ses rêves d'idéal, ses rêves de perfection. Il ne faut pas céder aux séductrices, aux séducteurs, mais il ne faut pas non plus se faire des illusions quant à notre conjoint idéal. Pour faire le lien avec ce qui a précédé dans notre texte, quelques versets plus haut, se laisser séduire, se laisser piéger par la femme séductrice ou l'homme séducteur, conduit à la méchanceté, conduit à être un insensé. Inversement, rechercher le conjoint parfait, c'est être juste à l'excès, et cela conduit à bien des frustrations. Et nous vivons dans ce monde-là, avec son lot de pièges et de frustrations, c'est le fruit, le triste fruit du péché qui agit dans notre monde. Pourtant, et l'Ecclésiaste a soin de le rappeler, à l'origine, Dieu n'a pas créé les choses comme cela. Verset 29, « Voici la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'être humain droit, mais les humains ont cherché beaucoup de combines. » Dieu a créé l'être humain droit dans le jardin d'Éden. Mais l'être humain, qu'il soit homme ou femme, l'être humain a choisi de suivre sa propre voie et de désobéir à Dieu et de décider pour lui-même qu'est-ce qui allait être le bien et qu'est-ce qui allait être le mal. Et c'est comme ça que le péché a fait son entrée dans le monde et avec le péché, toutes les conséquences que l'on connaît. L'être humain a cherché beaucoup de combines, de détours, et il joue de ces combines et de ces détours pour suivre ses propres voies sans Dieu. Dieu a créé un homme et une femme qui étaient originellement orientés vers la droiture, vers la justice. Mais les êtres humains ont emprunté des voies différentes. La responsabilité du mal n'incombe pas à Dieu. Bien au contraire, elle nous incombe à nous, les êtres humains. Et les voilà pourquoi il y a tant de choses qui sont tordues dans ce monde. Voilà pourquoi notre condition humaine est si décevante et frustrante. Voilà pourquoi le conjoint idéal n'existe pas. J'aimerais terminer en mentionnant deux écueils à éviter. Le perfectionnisme, dans le fond, ça part de quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, dans la mesure où on veut s'efforcer de faire le bien, on veut s'efforcer de faire bien, on veut s'efforcer de plaire à Dieu, et il y a du bon en soi. Mais ça peut conduire à certains écueils, à certains pièges. Le premier, c'est que le perfectionnisme peut conduire à se culpabiliser. On veut bien faire. Et donc, en tant que chrétien, on veut lire sa Bible. On veut prier tous les jours. On veut aimer notre prochain. On veut impacter notre société, notre quartier, nos camarades, nos collègues. On veut annoncer l'Évangile. Mais force est de constater que je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui ou cette semaine. Je n'ai pas prié autant que ce que j'aurais aimé ces derniers temps. J'ai eu telle ou telle mauvaise pensée. J'ai manqué ici de faire cela ou là-bas de faire ceci. Et par conséquent, je me mets à culpabiliser. Et je ne suis pas un bon chrétien. Et ça conduit souvent dans un cercle vicieux qui nous retient captif de notre culpabilité, et on a du mal à s'en défaire. Et quand ce n'est pas tourné vers nous-mêmes, c'est parfois tourné vers d'autres que nous appliquons cette grille de perfection, et la culpabilité est alors infligée à d'autres. Et débrouillez-vous avec ça. Et ça fait souvent très mal. Ça m'amène à un second écueil, c'est que le perfectionnisme peut aussi assez souvent conduire l'être humain, et le chrétien en particulier, à être plus royaliste que le roi et à défendre les intérêts de Dieu avec plus de zèle encore que Dieu lui-même. Le chrétien perfectionniste, il va analyser, il va s'efforcer de tout voir, et parce qu'il est perfectionniste, ce sera ou bien tout noir ou bien tout blanc. Et ça manquera de nuances. Le perfectionniste va avoir tendance à appliquer son rigorisme et à tracer des grands traits. Lui, elle, sa manière de vivre, ce n'est pas un vrai chrétien. Ce n'est pas un bon chrétien. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Voilà comment on doit faire. Voilà ce que dit la parole. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Mais dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a souvent des teintes entre les deux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand on critique, quand on analyse, on n'a souvent pas toutes les clés en main pour bien analyser, pour bien critiquer, pour bien nuancer et du coup pour dire les choses correctement. Il y a ici une invitation à mettre de la nuance dans notre discours les uns avec les autres. Une invitation à prendre conscience que le chrétien ne sera jamais parfait dans cette vie. Nous n'arriverons pas à nous débarrasser du péché dans la vie présente. En tant que chrétien, nous faisons aussi du mal. À nous de veiller à ne pas nous laisser aller. Ça ne doit pas être une excuse à nous laisser aller. Bien sûr que non. Ce serait se comporter en insensé. Ce serait agir avec méchanceté. Mais nous sommes invités à tendre au bien de toutes nos forces sans chercher à être juste à l'excès, envers soi-même ou envers les autres. Dans tout cela, il y a une bonne nouvelle. C'est que malgré notre désobéissance, malgré notre endurcissement dans le péché, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort, à notre péché et aux conséquences. Mais il a conçu un plan pour nous sauver. Ce plan, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé pour nous sauver de nos fautes, de nos péchés. Jésus, lui, est le seul qui a vécu une vie parfaite, une vie sans péché. Il a toujours tout mené, conduit dans la perfection. Et c'était le seul à pouvoir le faire, lui, homme et Dieu à la fois. Et s'il a fait cela, c'est pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir nous-mêmes. Le perfectionnisme voudrait nous pousser à atteindre la perfection dans le but de plaire à Dieu et mériter d'être sauvés. Mais les standards de Dieu, ils sont bien au-delà de nos standards à nous. Ils sont inatteignables. Et c'est ce que la loi que Dieu a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse montre. On ne peut pas satisfaire à toutes les exigences de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce en la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus, lui, n'a jamais péché. Et donc, il n'a pas eu besoin de mourir pour ses propres fautes. Il n'en avait pas. Mais il est mort à notre place. Et sur la croix, il a porté nos fautes. Il s'est chargé de nos péchés. Mais pas seulement cela. Jésus, par sa vie juste, il a mené une vie de justice. Et bien, cette justice que lui mérite, elle nous est donnée à nous. Elle nous est imputée à nous qui ne méritons pas d'être justes, qui ne méritons pas d'être sauvés. Mais Dieu nous fait ça dans sa grâce. Nous ne sommes donc pas sauvés par nos œuvres, ces œuvres que le perfectionnisme voudrait nous pousser à faire. Non, nous sommes bel et bien sauvés par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, son Fils, dès lors que nous plaçons notre confiance, notre foi en lui. Nous lisons dans la Bible, en 1 Pierre 3, verset 18, « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Un verset qui rappelle la raison de la mort de Jésus. Il est mort pour nos fautes, pour nos péchés. Ce verset rappelle aussi pour qui Jésus est mort. Il est mort pour nous, des coupables, des pécheurs. Lui, l'innocent, il a donné sa vie pour nous, des coupables. Ce verset rappelle la valeur de la mort de Jésus sur la croix. Cette valeur, elle est telle que sa mort a été accomplie une fois pour toutes. Parce que l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix est parfaite et il n'y a plus rien à attendre de plus. Tout a été accompli sur la croix. La valeur de sa mort, elle vaut depuis 2000 ans et jusqu'à son retour. Et aujourd'hui encore, on peut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Reconnaître notre besoin de lui, reconnaître que sans lui nous sommes esclaves dans nos péchés, reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer, qui peut nous racheter de nos fautes et nous permettre de trouver auprès du Père cette réconciliation, ce pardon qu'on reçoit du Père, ce pardon qu'on s'applique les uns aux autres et on l'a chanté aussi tout à l'heure. Pour nous conduire au repas de la scène qui va suivre, je vous invite à chanter ce chant « À toi l'honneur » et je vous invite à vous lever. Merci aux personnes qui nous conduisent dans ce chant. Il y en aura encore un dernier tout à l'heure. « À toi l'honneur, agneau de Dieu ».